rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dauthier, le micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant tout ce mois de mars, nous serons accompagnés par Monseigneur Gardès. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Avec vous, nous allons évoquer le dialogue interreligieux. Ce sujet du dialogue entre les religions a été sous le feu des projecteurs ces dernières semaines avec une très grosse actualité. L'actualité la plus structurante étant le voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis. Nous en parlerons en détail. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, Monseigneur Gardès, par rappeler ce que l'Église nous dit du dialogue interreligieux. Un des textes les plus fondateurs pour les catholiques est la déclaration issue du Concile Vatican II, Nostra Aetate. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte, dans quel cadre est-ce qu'elle a été promulguée, cette déclaration ?
C'est un texte qui date d'il y a 54 ans, puisque c'était au mois d'octobre 1965 que ce texte a été publié. Il a un statut très précis, c'est un statut de déclaration. Donc ce n'est pas un texte qui se veut prétendre saisir la totalité de la problématique, mais une déclaration, c'est une invitation, un rappel qui est fait par l'ensemble des pères du Concile, sur ce qui est souhaitable pour l'évolution de notre monde dans le contexte actuel. Alors je dis actuel parce que dernièrement...
Actuel il y a 50 ans ou actuel d'aujourd'hui ?
Dernièrement, je l'ai relu et retravaillé pour une raison très précise. On avait eu un colloque interreligieux là, un soir ici à Auch. Donc je l'ai relu dans ce contexte-là et je me suis dit, mais ça reste d'une actualité absolument merveilleuse, quoi, celle-là, et d'une liberté absolument merveilleuse. Donc là, il y a quelque chose qui est véritablement et constitutif de l'ensemble du corpus des textes du Concile Vatican II, mais qui cible quelque chose de très très précis, qui a une double dimension, la dimension spirituelle, qui est rappelé aussi bien pour l'ensemble des différentes religions qu'on verra peut-être là pour, par rapport à l'islam, par rapport à nos frères musulmans, par rapport à nos frères aînés juifs, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Et puis pour les autres aussi religions, y compris bien sûr toute la dimension spirituelle orientale et puis des religions africaines. Donc il y a comme quelque chose qui est exprimé et qui demeure d'une actualité absolument merveilleuse parce que ça vise à créer un climat, mais qui soit universel de respect du frère dans sa différence religieuse.
Donc, pourquoi est-ce que c'est nouveau ? En quoi est-ce qu'il y a 54 ans, ce texte était innovant, nouveau ?
Bien, tout simplement à cause et grâce à la structure d'un concile. C'est-à-dire l'ensemble des pères du monde entier qui étaient réunis. Ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y avait pas déjà dans tel diocèse, dans tel pays, dans telle église, tel et tel rappel qui était fait, qu'on est tous enfants de Dieu, donc on est tous frères. Puisqu'on a le même Père qui est Dieu. Oui. Mais concrètement, ça a été un texte universel, c'est-à-dire qui a été reconnu, même s'il y a eu quelques oppositions, bien évidemment, à l'époque, par rapport au statut particulier de l'Église catholique, et en particulier, bien sûr, pour la foi chrétienne. Mais la foi chrétienne n'est pas partagée que par les catholiques, il y a aussi toutes les églises chrétiennes qui existent. Donc, sur ce plan-là, il y a véritablement eu cette dimension au niveau spirituel de respect des autres religions. Et la deuxième dimension qui est très très importante, c'est dans un climat mondial de collaborer, de œuvrer pour que la paix puisse grandir.
Oui.
Or la paix ne peut pas grandir s'il n'y a pas le respect de l'autre dans toute sa dimension. Dimension physique, biologique, matérielle. Et bien, il y a aussi la dimension spirituelle. Donc je crois que les deux points sont très très importants parce qu'ils soulignent la nécessité d'échanges dans le respect sur le plan spirituel, mais que c'est inséparable d'une dimension de paix pour le monde entier.
D'accord, on va effectivement prendre le temps de bien expliquer ça. Est-ce qu'auparavant, peut-être, pour nos éditeurs, vous pouvez rappeler la différence entre l'interreligieux et l'œcuménisme ?
L'œcuménisme, c'est les relations entre l'ensemble des églises chrétiennes. Mmh. Voilà. Donc, il y a la référence qui est le Christ, il y a la référence qui est l'Évangile, bien sûr, la Bible, même s'il y a des petits passages qu'on a un endroit, qu'on n'a pas un autre endroit, mais dans l'ensemble, c'est la même Bible que nous avons. Donc, c'est entre chrétiens, c'est les échanges entre chrétiens. On a dernièrement encore, là, au mois de janvier, plus particulièrement marqué cela, du 18 au 25 janvier, avec la semaine de prière pour l'unité, où il y a eu des tas d'initiatives.
Oui, y compris à Radio Présence.
Tout au moins en France, où il y a Radio Présence. Mmh. Certainement parmi vous, plusieurs ont écouté ces échanges qui sont toujours très très riches.
Et donc l'œcuménisme, c'est donc entre chrétiens, entre religions chrétiennes, et l'interreligieux, donc là on...
C'est tous les
chrétiens avec les autres religions.
Toutes les autres religions.
D'accord. Et est-ce qu'on peut pousser plus loin la logique ? Parce que là, j'ai observé une forme de glissement sémantique. Aujourd'hui aussi, on parle d'interconvictionnel. Donc on va un peu au-delà de l'interreligieux. Comment qualifier l'interconvictionnel ? Mot un peu étonnant.
Mais y compris, nous, dans les échanges que nous avons là, dans les colloques qui sont organisés tous les deux ans, là, parce que ça fait venir aussi des personnes qui sont des noms, qui sont reconnus, donc c'est pas possible de le faire tous les ans. Mais à ce niveau-là, c'est non seulement le colloque interreligieux, mais aussi on met différents courants philosophiques. C'est-à-dire que même si Dieu n'est pas nommé, mais qu'il y a une dimension spirituelle de l'homme, plusieurs philosophes d'ailleurs contemporains m'ont parlé d'une spiritualité séculière. C'est-à-dire que l'homme reconnaît qu'il n'est pas, comme on va le dire d'une manière un peu triviale, qu'il n'est pas que le résumé d'un paquet de molécules avec des interactions qui se produisent, mais qu'il y a une dimension où j'aime à dire que l'homme est plus que l'homme.
À partir du moment où on considère qu'il y a autre chose de supérieur, quelle que soit la nature de cette chose, on est dans un mouvement interconvictionnel et donc on peut dialoguer.
Voilà, c'est ça. Tout à fait.
D'accord. Mmh. Alors revenons un petit peu, si vous voulez bien, à Nostra Aetate. On va peut-être diviser en quatre un peu l'approche, puisqu'il y a quelque chose qui est dit de chacune des religions importantes. Le premier paragraphe, il est consacré à l'hindouisme et au bouddhisme. Et la recommandation de cette déclaration de Nostra Aetate est de préserver et faire progresser les valeurs spirituelles de ses croyants avec, j'aime beaucoup le choix des mots, avec prudence et charité, par le dialogue et la collaboration, tout en témoignant de notre foi. Effectivement, c'est une phrase qui est importante, on en reconnaît des rayons de la vérité. Qu'est-ce que c'est que ces rayons de la vérité ?
Oui, il y avait les pères de l'Église qui parlaient d'étincelles. Oui. Qui était en chaque être humain. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une trace en chaque être humain d'une dimension qui ouvre à une certaine forme de transcendance. Alors qu'on en personnalise en mettant le terme de Dieu, ou que l'on mette Allah, ou qu'on mette le Saint, béni soit-il, si on reste avec les religions monothéistes, mais aussi si on parle de le Brahman Atman dans la tradition de l'hindouisme, ça, de la tradition des Upanishads et des Rig Veda, il y a une dimension spirituelle qui transcende l'homme.
Et donc on le reconnaît. L'Église catholique leur reconnaît des rayons de la vérité, c'est
voilà, ça. Voilà, exactement.
D'accord.
T'as un théologien qui est du 19e siècle qui avait beaucoup réfléchi là-dessus et qui disait qu'en chaque être humain, il y a une trace de la divinité qui est semée. Et c'est ce qui explique que même s'il n'y a pas le nom de Dieu qui est exprimé, mais qu'il y a une dimension de recherche d'une transcendance de l'homme.
D'accord, et donc là, avec eux, on va chercher de témoigner de notre foi. Donc on va essayer, est-ce que le mot convertir est encore a du sens quand on témoigne de notre foi ici ?
Je suis très, très prudent par rapport à ce mot convertir, sauf si on l'applique d'abord à soi-même. On a tous besoin de conversion, c'est sûr. Mais par exemple, pour nos frrères juifs, j'emploie jamais le terme de conversion.
Et d'ailleurs, il est absent de cette déclaration.
Mais c'est pas un hasard, d'ailleurs. Oui. Parce que comme nos racines sont des racines juives, donc là, Jésus était juif. Là, il y a Rabbi Yeshua. J'ai eu l'occasion d'entendre une conférence de plusieurs heures par Jean-Marc Chouraki sur Rabbi Yeshua. Donc, il est professeur à l'université d'Aix-en-Provence, professeur d'histoire, lors de colloques avec le judaïsme. Eh bien, il y avait cette dimension qui était très, très fortement soulignée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. On aura peut-être l'occasion de revenir là, à propos du judaïsme, mais on était parti sur les questions d'hindouisme.
Oui.
Il y a aussi la dimension du bouddhisme qui
oui.
est très, très, très importante
oui.
et qui, à mon avis, a beaucoup à nous apprendre. Surtout dans cette époque où on remet.
Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ?
Premier point au niveau de l'écologie, c'est sur la dimension de l'harmonie.
Oui.
L'harmonie et la compassion, donc, qui sont très très présentes. Là, en particulier dans le bouddhisme, eh bien, il y a certainement besoin de retrouver une harmonie avec le monde qui nous entoure, non seulement humain, mais la dimension de l'écologie est une dimension qui est très très présente dans le bouddhisme. Dans le respect de la nature, de la création.
D'accord. Et donc, on a des choses à... Comment est-ce qu'on fait pour apprendre d'eux ?
On écoute. Et on cherche. Pouvoir les rencontrer.
Il y a des lieux pour les rencontrer ?
Il y a quelques années, j'avais été invité plusieurs fois là, pour des colloques à l'ashram de Gretz. Donc, c'est dans le territoire, c'est pas loin de Meaux. À ce niveau-là, et c'était très très important de pouvoir travailler avec Swami Vitamo Ananda, là, qui est le responsable de ce centre védantique, et il soulignait la dimension universelle de l'aspect spirituel en l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé ni aux catholiques, ni à l'ensemble des chrétiens, ni aux musulmans, ni aux juifs, ni aux hindous, ni aux bouddhistes, ni aux religions africaines, d'une dimension, il ne faut pas oublier les religions africaines qui sont très très importantes, mais il y a quelque chose qui est comme une structure fondamentale de chaque être humain.
Bien, merci beaucoup Monseigneur pour cette première approche, première découverte.
Avec plaisir.
Du dialogue interreligieux, et on se retrouve la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques,